France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vous vous souvenez évidemment des multiples discussions que nous avons eues ici même sur les réticences françaises à la vaccination, ce qui a provoqué d'ailleurs un début de vaccination, souvenez-vous, contre le Covid un peu chaotique. On n'avait pas voulu à l'époque brusquer qui que ce soit. Le Covid justement a un peu enfoncé certains clous et les dangers de l'ARN messager, merci d'entendre les guillemets, ont alimenté des débats parfois totalement surréalistes. Aujourd'hui, alors que Santé publique France publie son bilan 2023, c'est sorti lundi, regardons la seringue à moitié pleine. Le niveau de vaccination en France a progressé en 2023. Les vaccinations obligatoires pour les très jeunes enfants notamment sont bien là, avec une inquiétude quand même partagée dans le monde par l'OMS. La progression de vaccination pour la rougeole est toujours insuffisante. Il faudrait une couverture vaccinale de 95% pour que la maladie ne devienne qu'un mauvais souvenir, et on n'y est pas. On va d'ailleurs essayer de comprendre pourquoi il y a cette histoire de rougeole. L'autre enseignement à l'autre bout des tranches d'âge, ce sont les plus de 65 ans ou les personnes à risque qui sont trop peu vaccinées contre la grippe et aussi contre le Covid. C'est aussi l'une des questions qu'on posera. Est-ce qu'on a finalement oublié un peu tout ça? Est-ce qu'on a intérêt à nous remettre un petit peu sur ce chemin-là? Et on va en parler. On va en profiter pour se demander ce que l'on sait désormais, avec le recul nécessaire, des prochaines utilisations de cet ARN messager. Où en sommes-nous? On va commencer sur un chiffre publié aujourd'hui même par l'OMS. Depuis 50 ans, les vaccins ont sauvé 154 millions de vies. Ça veut dire 6 vies par minute. Et la grande majorité de ces vies, ce sont celles des nourrissons. Voilà pour les chiffres. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Thierry, soyez le bienvenu, vous êtes le premier, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Thierry.
Eh bien oui, depuis l'histoire du Covid, je suis toujours très étonné d'entendre parler des pro-vaccins, des anti-vaccins, comme s'il y avait deux guildes totalement opposées et qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Dans la réalité, je vois qu'autour de moi, moi d'abord, le premier, mais autour de moi, tous les gens que je connais, les plus favorables jusqu'aux moins favorables au vaccin en général, ont des positions qui sont variables selon le vaccin. On est dans la même situation que les médicaments. On peut pas dire « je suis pour les médicaments, on compte les médicaments ». Non, il y a des bons médicaments, des mauvais médicaments, des médicaments qu'il faut prendre, hein, même s'il y a des effets secondaires, parce que c'est très très important. Ben les vaccins, c'est pareil. Même un pro-vaccin qui parle de nanopuces pour contrôler les gens, enfin le plus grave, eh bien, si jamais il se fait mordre par un chien enragé, je voudrais bien voir qu'il ne va pas accepter le vaccin antirabique, puisque le vaccin antirabique, c'est la seule solution pour éviter la mort. Il y a 100% de mort si on ne se fait pas vacciner après une morsure. Bon, et pour les pro-vaccins, c'est la même chose. Les pro-vaccins, ils ne se vaccinent pas sur la totalité des vaccins qui existent. Il y en a qui ont un intérêt très très moyen, très partiel, et puis d'autres qui sont extrêmement importants. Mmh. Voilà.
Alors c'est sûr qu'on ne va pas se faire vacciner contre la fièvre jaune, par exemple, si on n'a absolument aucune intention d'aller dans certains pays et autres. Merci Thierry pour cette entrée en matière et pour le début de cette discussion que nous allons avoir ensemble jusqu'à 20h. Pour en discuter, il y a Anne-Claude Crémieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infectiologue, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé. Et Isabelle Parent du Châtelet est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin épidémiologiste, vous êtes responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination à Santé publique France. Vous voyez réagir à ce que disait notre ami Thierry, Anne-Claude Crémieux. Est-ce qu'il y a un intermédiaire entre les deux guildes, comme il dit, les pros, les anti?
C'est très intéressant ce que vous avez dit, et ça reflète parfaitement la réalité. En réalité, effectivement, l'hésitation n'est pas l'opposition. Et vous avez tout à fait raison de le dire. C'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid. On a vu au départ qu'il y avait seulement 40% de personnes qui étaient favorables à la vaccination. Et puis, en fonction des connaissances, les gens ont été rassurés sur l'efficacité et la tolérance du vaccin. Il y a eu un effet d'entraînement. Et il y a quelque chose qui a joué aussi, c'est la perception de la gravité de la situation. Et nous sommes passés de 40% à plus de 80%. Et j'insiste, c'était en juin. avant le pass sanitaire. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On a été diesel, mais on y a été. C'est ça,
ça veut dire qu'effectivement, l'acceptabilité ou l'acceptation vaccinale, elle dépend de plusieurs facteurs. La perception de l'efficacité, la perception de la gravité de la maladie, et puis le fait d'être rassuré sur la tolérance. On peut aussi, ça a été très très bien illustré par l'effet Befortus, qu'on peut appeler l'effet Befortus, c'est-à-dire que des anticorps, c'est pas un vaccin, mais c'est quand même des anticorps qui protégeaient les bébés contre le VRS, et bien les mamans...
Attendez, vous nous avez perdu. Déjà, l'effet Befortus...
L'effet Befortus, c'est des anticorps qui ont été administrés aux nouveau-nés pour les protéger de la bronchiolite.
D'accord.
Vous vous rappelez
d'accord.
de ça?
Okay, bien sûr.
On a été très étonnés, ça a dépassé toutes les prévisions. Les mamans se sont précipitées dessus, pourtant c'était une nouvelle façon d'immuniser. Et pourquoi ? Parce que ces mamans avaient perçu la gravité de la bronchiolite de l'année dernière.
Moi, ce que je trouve fascinant quand même avec les vaccins, vous avez raison, sur la bronchiolite, les parents se sont précipités. D'ailleurs, il y a eu un problème de stock qui n'était pas assez important.
C'était tout à fait imprévu.
Sur le papillomavirus, qui est quand même un vaccin dont on peut dire qu'il évite des cancers, enfin, c'est un vrai truc, le papillomavirus, pour les jeunes garçons comme pour les jeunes filles. En revanche, on a beaucoup de mal à y aller. Pourquoi il y a cette différence, Isabelle Parent-Duchâtelet? Est-ce qu'on sait la faire, cette différence? Est-ce qu'on sait dire, je suis une jeune maman, j'ai un tout petit bébé, la bronchiolite, je n'hésite pas, j'ai des ados, le papillomavirus, j'hésite. Est-ce qu'on comprend ça ou pas?
Alors, comme le disait le professeur Anne-Claude Crémieux, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte dans l'acceptabilité d'une vaccination. Et juste aussi, je voulais rebondir sur ce que disait l'auditeur tout à l'heure.
Thierry, ouais.
Effectivement, il y a l'adhésion à la vaccination, qui est globale, générale, et parmi les personnes qui sont favorables, voire très favorables à la vaccination, il y a des réticences à certains vaccins. Et donc, effectivement, on voit que dans le baromètre, dans l'étude de baromètre santé de Sandy Public France qui est publiée dans notre bulletin, finalement, la réticence au vaccin papillomavirus, elle n'est pas très, très importante.
Non, ce n'est pas qu'il y a une réticence, c'est qu'il y a une espèce de négligence.
C'est plutôt ça, en fait. Alors, il y a peut-être une négligence, mais bon, il y aura des données sur la vaccination HPV qui vont être diffusé prochainement, et notamment sur aussi l'impact qu'a eu la campagne de vaccination dans les collèges. Donc voilà, mais je pense qu'on a un peu tous conscience de l'intérêt de ce vaccin HPV chez les filles. Et chez les garçons également,
absolument.
Chez les garçons, parce que voilà, on connaît maintenant la part des HPV dans les cancers ORL, dans les autres cancers qui touchent les garçons, anus, pénis. Donc voilà, c'est aussi de l'information qu'il faut faire passer, la pédagogie, le rôle des professionnels de santé, voilà, qui explique à leur patientèle, notamment aux jeunes adolescents, l'intérêt de cette vaccination.
Alors justement, puisqu'on y est, comme ça, on passera sur le papillomavirus. On a Elfie qui est sur WhatsApp et qui nous dit « J'ai 39 ans, j'ai fait un frottis récemment, je n'ai pas le HPV, j'ai demandé à mon médecin d'être vacciné, j'étais d'accord pour payer, elle m'a dit que ce n'était pas possible. Pourquoi est-ce que c'est contre-indiqué alors qu'au Canada, l'autorisation de mise sur le marché va jusqu'à 45 ans ?»
Alors, ce n'est pas contre-indiqué, ce n'est pas recommandé à ce jour du coup, ce n'est pas remboursé. Pourquoi ?
Aujourd'hui, elle dit que ce n'est pas grave, moi je veux bien payer plein pot.
Il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui, c'est recommandé pour jusqu'à 19 ans chez les jeunes filles. Et effectivement, on pointe quelque chose qui est problématique. C'est que chez les garçons qui ont des rapports homosexuels, c'est jusqu'à 26 ans. Je vous avoue que il y a deux choses derrière ça. Il y a un premier message qui est très important. C'est que plus on fait la vaccination tôt avant les rapports sexuels, et là je veux parler de la tranche 11-14 ans, plus c'est efficace, parce que c'est un vaccin qui protège de manière optimale avant les premiers rapports sexuels, c'est-à-dire avant que l'on acquiert les papillomavirus, parce qu'ils s'acquièrent très tôt dans la vie sexuelle. Mais néanmoins, il y a, pour les personnes qui n'auraient pas fait le vaccin avant 19 ans, eh bien, il y a, effectivement, ça a été montré en Suède, encore une efficacité jusqu'à l'âge de à peu près 26 ans, qui est d'environ la moitié. Mmh. Donc, on est en train de réfléchir à la Haute Autorité de Santé sur l'intérêt de ce rattrapage, parce que aujourd'hui, il y a une partie de ces jeunes filles ou jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance de se faire vacciner. Et malgré tout, même chez elles, le vaccin peut avoir une certaine efficacité. Alors, on est plutôt dans une tranche d'âge qui va jusqu'à 26 ans. Et donc, c'est quelque chose qui est en cours à la Haute Autorité.
Et donc, la réponse à Elfie, c'est à 39 ans, finalement, moins d'efficacité.
Alors, ça a été aussi étudié largement aux États-Unis. Ils ont reculé jusqu'à 45 ans. Et c'est vrai, malheureusement, que après 26 ans, l'efficacité est très, très basse et pratiquement disparue. Donc, je dirais, bon, voilà, c'est dommage, mais c'est vrai que, en tout cas, pour les plus jeunes, il est vraisemblable que dans les mois qui viennent, en tout cas, c'est vraiment une réflexion sur de la recommandation, parce qu'il y a, malheureusement, en France, une tranche d'âge qui n'a pas bénéficié de cette vaccination.
Retour au standard avec Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir
à tous. On vous écoute.
Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il faut que la confiance dans la vaccination persiste ou revienne si elle est partie, mais dans la mesure où on a des vaccins qui sont sûrs et efficaces, je veux dire, face à une maladie grave, voire mortelle, extrêmement contagieuse, qui touche tout le monde, qui est très contagieuse et contre laquelle il n'y a pas de traitement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'à la fois pour le Covid et pour le papillomavirus, ça n'a pas été tout à fait le cas. Je rappelle que les études pour le Covid, la technique ARN, si elle n'était pas inconnue, était tout à fait confidentielle et donc expérimentale chez les humains, que l'efficacité n'a jamais été prouvée réellement. Et je pourrais interroger Mme Crémieux sur cette étude qu'elle ne peut pas ne pas connaître, qui ne vient pas d'un site complotiste, mais du système de santé britannique qui est sorti l'été dernier, et dont personne ne parle, et qui semble bien montrer que la balance bénéfice-risque du vaccin n'est pas merveilleuse comme on nous le dit, mais qu'au contraire...
Je vous préviens, Frédéric, il y a un clone Crémieux qui est en train de faire non avec la tête, mais finissez. Ouais, je vous en prie.
Quelle que soit la tranche d'âge, entre avril 21 et juin 23, il semble que les gens vaccinés, toutes causes de décès confondues, meurent davantage que les non-vaccinés. Voilà. Alors je vous le livre. Quant au papillomavirus, qui est effectivement un vaccin qui protège contre 7 ou 10 papillomavirus, alors qu'il y a une centaine de papillomavirus, il peut effectivement protéger, il peut effectivement être efficace, mais je rappelle quand même que l'on a environ 9000 cancers du col de l'utérus par an, dont 1000 décès, mais qui pourraient tous être évités si on faisait simplement des frottis. Donc là aussi, la balance bénéfice-risque, dans la mesure où il y a une prévention ou un traitement, on peut expliquer aux parents du jeune homme qui est décédé 5 minutes après un vaccin, ce qu'ils en pensent.
Merci voilà. Frédéric pour votre appel. On a vu réagir nos deux invités pendant que vous parliez, Anne-Claude Crémieux, puisque c'est vous qu'on met en cause même au début de la question et sur cette fameuse étude, allez-y.
Non, alors je vais être très catégorique. Allez-y. Il y a 13 milliards de doses de vaccins ARN qui ont été administrées dans le monde. 150 millions en France. Et pour vous convaincre, aujourd'hui, que ça soit l'OMS, les agences nationales et les réseaux internationaux, on considère que c'est vraiment un vaccin très sûr et efficace. Efficace pourquoi ? Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont en réanimation ou qui décèdent sont des gens qui ont eu un dernier, qui sont âgés d'ailleurs, et dont le dernier vaccin date de plus de 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, chez ces personnes très âgées, il faut avoir un rappel récent pour être parfaitement protégé contre les formes sévères. C'est tellement les vaccins ARN sont tellement des vaccins sûrs et efficaces que vous le savez, aujourd'hui, on est en train de transporter cette technologie pour lutter contre les cancers. Alors, et vraiment, une des raisons pour lesquelles il y a une avancée, c'est l'extraordinaire sécurité qu'on a documenté pendant la crise.
On va y venir effectivement à ce qu'on en sait désormais de cet ARN et ce qu'on en fait aujourd'hui, mais quand même pour rester sur le Covid, et pas seulement le Covid d'ailleurs Isabelle Parent-Duchâtelet, mais aussi sur la grippe, en lisant le rapport de Santé publique France, moi j'ai quand même été assez édifiée, et je vais me mettre dedans par le fait que les moins de 65 ans à risque et les plus de 65 ans, on a l'impression qu'ils ont... est-ce qu'on a totalement oublié réellement, je vois sur la grippe, différence 2023 2024, en fonction des départements, moins 9,4, moins 10, moins 7, moins 9, moins 10, moins 10, moins 7. Enfin bref, et le Covid, c'est pareil. Est-ce qu'on a oublié et est-ce qu'on fait une erreur ?
Alors, je ne sais pas si on a oublié, en tout cas, les couvertures vaccinales récentes, hein, les derniers chiffres, montrent qu'effectivement, les couvertures vaccinales contre la grippe et contre la Covid sont insuffisantes. Alors, contre la grippe, comme vous l'avez mentionné, hein, il y a, pour les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, donc qui sont vraiment ciblées depuis longtemps par la campagne, la vaccination, elle atteint un taux de qui dépasse à peine les 50%, et ça baisse depuis 2020-2021. Pendant la Covid-19, au contraire, il y avait une adhésion beaucoup plus forte à la vaccination.
Mais je me souviens, pardon de vous interrompre, Isabelle Parent-Duchâtelet, on avait dit au cœur de la crise, la question qu'on posait le plus souvent, c'était alors est-ce que désormais, comme la grippe, ce sera un vaccin récurrent qu'il faudra faire tous les ans ? Et finalement, on n'est pas sûr d'avoir cette réponse et surtout, du coup... Personne ne pose vraiment la question, en fait.
Alors, pour la Covid, effectivement, la Covid-19 n'est pas encore une maladie complètement saisonnière. Et donc, avec des vaccins qui, comme la grippe, ne sont pas très, très efficaces sur l'infection. Par contre, je reviens quand même sur l'efficacité des vaccins Covid, parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que les vaccinations avaient considérablement réduit la morbidité et la mortalité de cette pandémie Covid. En France, Santé publique France a fait une étude entre décembre 2020 et mars 2022. Plus de 125 000 décès estimés comme évités par la vaccination. Donc je crois qu'il faut garder quand même en tête l'impact et ce que ça, les vies que ça a pu sauver pendant cette pandémie grâce aux vaccins ARN messagers qui ont été
produits. Mais on s'en souvient, mais c'est vrai que désormais plus en fait, et moi je vois, c'est dans votre rapport, les couvertures vaccinales, même chez les professionnels de santé, pardon, estimées à 9,9% pour ceux qui exercent en EHPAD, à 11,1% pour les libéraux, 12,2 pour ceux qui exercent en établissement de santé. Donc les soignants comme nous, hein, je veux dire, on a l'impression qu'on est vraiment passé à autre chose.
On est tout à fait catastrophé, hein, voilà. Très honnêtement.
C'était le sens de ma question.
On l'est vraiment, on en a bien conscience. Alors effectivement, il y a du travail à faire de sensibilisation et
à refaire.
Peut-être qu'Anne-Claude, là,
j'ai un point, c'est que ce qui est très intéressant, c'est une enquête que vous avez faite, Santé publique France, je m'adresse à Isabelle, qui avait montré juste avant l'automne, il y avait 74% des personnes qui étaient éligibles à la vaccination cet automne qui ont dit qu'elles voulaient se faire vacciner du Covid. Donc ce n'est pas un problème d'hésitation vaccinale. Les gens sont favorables ou très favorables à la vaccination, vous l'avez montré, 84%. Pourquoi les gens n'y vont pas ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que des gens favorables à la vaccination ne vont pas jusqu'à se faire vacciner. Ouais. Il peut y avoir pas mal de raisons, dont
l'essentiel. L'essentiel étant.
Il peut y avoir pas mal de raisons. Alors, pour le Covid, je pense que les gens comprennent le calendrier vaccinal, mais on l'a vu pour d'autres pathologies. On a été très frappé du fait qu'une personne sur deux ne sait pas si elle est à jour de son calendrier vaccinal. Et c'est un frein. C'est un frein pour aller se faire vacciner. Donc c'est ça qu'il faut simplifier. Il faut simplifier le calendrier vaccinal et il faut simplifier aussi le parcours vaccinal. C'est ce qui est en train d'être fait.
Il y a Iliès qui nous dit sur WhatsApp, par négligence de ma part, peut-être aussi celle de mon médecin traitant, j'en sais rien, nous dit-il, je ne suis plus à jour dans mes vaccins, donc maintenant qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois tout reprendre à zéro ? Est-ce qu'on reprend tout à zéro ou pas ? Comment ça se passe ? Quand on n'est pas à jour, quand on ne sait pas où on en est, en fait ?
Alors, c'est ça l'intérêt d'avoir des âges clés. C'est-à-dire que ça dépend de son âge. Il faut qu'on regarde. Bon, encore une fois, je pense qu'il faut être Il faut vraiment que les gens comprennent pourquoi il y a des âges clés de la vaccination. Le nourrisson, on l'a vu, il est fragile, il a un système immunitaire qui est immature et il fait des infections, toutes les mamans le savent, et il est vacciné. L'adolescent, les gens ont moins conscience. Vous parliez tout à l'heure de 50% d'adolescents qui n'étaient pas vaccinés. Je pense que c'est plus un problème d'âge que d'un problème de type de vaccin, parce que c'est la même chose pour le vaccin méningocoque. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'adolescent n'a pas de visite obligatoire comme le nourrisson. Et d'autre part, il n'y a pas cette perception de la vulnérabilité. Or, les adolescents sont vulnérables, non pas en raison d'un système immunitaire fragile, mais en raison de leur interaction multiple sociale.
Donc, pour que ce soit plus simple, Anne-Laure Crémieux, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a un carnet de vaccination numérique et on a une notification qui vient, attention, rappel ? Est-ce qu'on a un rendez-vous chez le pédiatre à l'adolescence ? Comment ça se passe ?
Sachez quelles sont les vaccinations obligatoires dans votre tranche d'âge. Si, effectivement, vous êtes adolescent et adulte jeune, c'est très simple, c'est lié à vos interactions sociales, c'est HPV, c'est méningocoque, et on va faire le quadrivalent méningocoque, et c'est aussi le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, on va revenir, parce que vous devez protéger avec la coqueluche les petits bébés avec qui vous êtes en contact. Si vous êtes au plus de 65 ans, ben c'est pareil, il y a 4 vaccins à faire. Alors ça, c'est une chose, et bientôt, on va avoir le calendrier vaccinal qui est en train de se mettre en place, enfin avec les rappels automatiques. C'est pour demain, si je puis dire, et ça, ça va nous aider.
On est en train de parler de vaccination. Sommes-nous réconciliés avec la vaccination ? Où en sommes-nous dans le téléphone ? Sonne avec Anne-Claude Crémieux, avec Isabelle Parent du Châtelet. On va retourner au standard, mais puisqu'on est là, j'ai juste une question très très rapide. Si demain, je me dis, mince, j'ai pas fait de rappel Covid, je devrais, je suis à risque, etc. Si je vais voir mon médecin, est-ce que je suis sûre qu'il a des doses ?
Votre pharmacien.
Est-ce que je suis sûre que mon pharmacien a des doses ?
C'est-à-dire, là, actuellement, la campagne va s'arrêter dans à peu près 3 semaines, un mois, parce qu'elle couvre essentiellement les plus de 80 ans.
D'accord. Laurent est en Alsace. Bonsoir, Laurent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Laurent.
Mon appel. Mais écoutez, en fin de compte, par rapport aux vaccinations, j'ai une expérience qui m'avait quand même fait comprendre l'importance des vaccins. Et je trouve que ce serait pas mal pour certaines personnes parfois de vivre ce genre d'expérience. J'étais en 2012 au Grotescourt Hospital. C'est un hôpital qui est dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. J'y travaillais pour un laboratoire. Et en fin de compte, j'ai eu l'opportunité de visiter un service d'infectiologie. Et c'est là que j'ai vu l'effet justement de la non-vaccination avec les cas de rougeole, de rage et de différentes maladies. Et j'avoue que je suis pas du tout sorti indemne de ce tour du service, parce qu'on se rend compte justement des maladies chez nous, on n'en parle plus, la rage, enfin, au quotidien, on n'en parle pas du tout. La rougeole, malheureusement, ça réapparaît un peu, mais on n'en parle pas au quotidien. Et là-bas, je voyais vraiment des gens, malheureusement aussi parfois des gens qui étaient porteurs du sida et qui étaient infectés par ce genre de maladies qui peuvent être évitées par des vaccins. Et je me disais, mais voilà, j'avais presque honte de me dire que chez nous, où on a accès à ces vaccins, les gens le refusent. Alors que là-bas, justement, ils accueillaient des gens des pays limitrophes de l'Afrique du Sud qui n'avaient pas forcément accès à des vaccins et qui, eux, subissaient, ils n'avaient pas le choix. Ils mouraient de ces maladies. Et ce qui m'énerve parfois quand j'entends des gens qui disent qu'ils ne veulent pas se faire injecter quelque chose dans le corps, j'aimerais juste savoir le jour où ils ont un accident, qu'ils ont une fracture ouverte, avant d'avoir l'opération, est-ce qu' ils vont dire au chirurgien « ne m'injectez rien dans le corps, pas d'anesthésiant, pas d'antidouleur ». Voilà, vous faites l'opération de l'os, à bip.
Laurent,
je trouve qu'il y a un peu ce double langage et ça fait, moi ça me gêne pas mal.
Laurent, merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a une chose que dit Laurent, Isabelle Parent du Châtelet, il a cité quelques maladies, notamment la rougeole. Et moi, en préparant cette émission, je suis toujours épatée par ce chiffre de rougeole. En fait, comment ça se fait qu'on n'arrive pas au 95%? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec la rougeole ou pas?
Alors, on n'arrive pas encore au 95% de couverture vaccinale qui est nécessaire pour éliminer la rougeole, parce que c'est un objectif de l'OMS en Europe, c'est d'éliminer cette maladie. On peut l'éliminer même si elle est très contagieuse, parce que la vaccination protège quasiment à 100% quand les personnes ont été vaccinées avec deux doses. Et c'est un vaccin non seulement sûr et efficace, mais aussi qui protège longtemps, contrairement à d'autres vaccins où la protection induite est de plus courte durée. Donc, effectivement, dès qu'on a une baisse un peu de ses couvertures ou de la couverture vaccinale ou qu'elle n'atteint pas ce niveau, eh bien, on constitue ce qu'on appelle des poches de sujets réceptifs. Mm-hmm. Et quand le virus s'introduit dans des groupes de, voilà, ou dans des populations, par exemple, on a des cas de rougeole en crèche et des enfants tout petits qui n'ont pas encore pu bénéficier de la vaccination. Quand le virus s'introduit dans des collectivités où la couverture vaccinale est insuffisante, il circule, il diffuse et c'est un peu la crainte que l'on a, c'est de voir réapparaître.
Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est dans le package, pardon, le package des fameux 11. Donc, du coup, on se dit, bah, à partir du moment où on commence, la plupart des parents s'arrêtent pas uniquement pour ne pas faire la rougeole. Donc, c'est ça qui m'étonne, en fait, dans ce chiffre de rougeole précisément, Claude Crémieux.
Allez-y. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les vaccinations du jeune nourrisson, elles sont très élevées. Ce sont les vaccins obligatoires. La rougeole se donne à des âges un petit peu plus âgés. D'accord. Donc voilà, parfois peut-être que des parents veulent attendre l'entrée en collectivité à l'école, mais bon, c'est quand même en progression. On n'est pas loin d'atteindre le but et il faut continuer à sensibiliser au risque de la rougeole. Mmh. Parce que c'est une maladie qui peut être dangereuse, notamment pour certaines personnes fragiles.
Oui, ce qu'on est en train de voir, c'est que ça s'explique en partie par le rattrapage qui n'est pas parfait de ces nourrissons qui, au fond, n'ont pas connu et qui sont nés avant 2018. C'est-à-dire que, au fond, depuis 2018, la couverture vaccinale est excellente chez les nourrissons. Mais ceux qui sont plus âgés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10 ans et qui sont à risque de rencontrer le virus de la rougeole, ceux-là, effectivement, ils bénéficient d'une couverture vaccinale qui est un peu plus faible, de 90% au lieu de 96%. Et comme l'a dit Isabelle, eh bien, ça fait une poche d'enfants réceptifs.
Très, très rapidement, avant de retourner au standard, mais je voudrais juste parce qu'il y a Elfie qui nous écoutait tout à l'heure, qui avait posé la question sur le papillomavirus et qui revient à la charge. Je ne veux pas la laisser toute seule. C'était aussi un bout de la question de notre auditeur tout à l'heure et qui dit « Mais j'ai bien entendu la réponse de Madame Crémieux. Mais dans la mesure où désormais on peut savoir avec un frottis si on a le virus, sans maladie déclarée même, alors pourquoi ne pas vacciner les femmes adultes saines ? Je ne comprends pas très bien cette mesure et pourquoi ce serait moins efficace ?» Rapidement, s'il vous plaît.
Alors, le frottis, c'est l'expression du virus. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le virus va, si vous voulez, atteindre les cellules et il va y avoir une anomalie de la cellule qui exprime, dirait déjà, que le virus a abîmé la cellule. Mais la présence du virus, elle est beaucoup plus difficile à détecter. Il faut des tests PCR. Et effectivement, on le sait, après un certain âge, de toute façon, il y a déjà une colonisation par ces virus.
Voici Jeanne-Marie au standard. Bonsoir.
Bonsoir. On vous écoute. Merci de prendre mon appel. Je voulais simplement savoir si le vaccin antitétanique seul existait toujours et quel laboratoire le fait.
Est-ce qu'il existe seul? Non, fait avec non, la tête Isabelle Parent du Châtelet. Et pourquoi?
Non, il est associé à la diphtérie et à la polio.
D'été polio.
Voilà, parce que dans la foulée, sur WhatsApp, on a Annie qui dit pourquoi les laboratoires se permettent d'imposer un bouquet de vaccins lorsqu'un seul est souhaité. Et elle cite effectivement d'été polio, etc. Pourquoi imposer un bouquet, nous demande à la fois Annick et Jeanne-Marie aussi.
Alors, les vaccins combinés, ça a quand même son avantage. Par exemple, on sait qu'il faut faire des rappels pour la diphtérie, tétanos, polio et coqueluche au même moment. Hein. Donc, la coqueluche, c'est jusqu'à 25 ans et les autres, on continue après. Donc, ça a l'avantage qu'on fait une injection au lieu d'en faire quatre. Et chez les enfants, c'est particulièrement marquant. C'est-à-dire que ces vaccins combinés simplifie considérablement la vaccination.
Vous l'avez... il y a Baptiste qui est à Lyon, qui est là, pardon. Bonsoir Baptiste. Baptiste, est-ce qu'on a perdu Baptiste ? On a perdu Baptiste, visiblement, ou alors il n'est pas prêt. Vous l'avez un peu évoqué, Anne-Claude Crémieux, j'en profite, je saute dessus avant que Baptiste de Lyon ne soit revenu. Est-ce que les vaccins ARN, nous demande Elisa Parmel, sont aussi une bonne nouvelle, une thérapie efficace contre le cancer? On avait évoqué ces questions-là au moment de la vaccination contre le Covid, en disant les promesses que le vaccin ARN allait être. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de précision sur ces promesses-là?
Oui, alors ça, c'est effectivement le saut technologique, on peut dire ça, hein, le saut technologique qui a été franchi avec, au fond, le développement de cette nouvelle plateforme vaccinale que sont les ARN messagers, a largement bénéficié et large aux maladies infectieuses, à commencer évidemment par le Covid, mais pas seulement, puisque on va vers des nouveaux vaccins à base d'ARN messager, mais il a aussi bénéficié à un autre type de pathologie, qui sont le cancer. Alors, c'est pas un concept nouveau. C'est quelque chose qui avait commencé il y a plus de 10 ans.
C'est comme ça que
mais
ça a commencé.
Mais l'essor a été extraordinaire, justement, parce que, au fond, on a démontrer, justement, comme je le disais, la sécurité et l'efficacité de ces vaccins. Les laboratoires, aujourd'hui, sont en train d'améliorer ces vaccins. Et donc, aujourd'hui, il y a le premier essai de phase 3, donc assez développé, contre les mélanomes à risque de rechute, en association avec un autre traitement qui est aussi immunostimulant, parce que l'objectif de tout ça, c'est bien de stimuler l'immunité pour qu'elle élimine des cellules cancéreuses qui portent des marqueurs particuliers.
Justement, j'allais vous demander si c'est le cancer ou les cancers, ou si, au fond, grâce à l'ARN messager, au moins on a trouvé un chemin commun pour tous, quitte à ce qu'après, effectivement, il y ait un certain nombre d'adaptations.
Non, alors c'est de la dentelle.
Voilà.
Car en réalité, on fait un vaccin pour une tumeur d'un individu. C'est parce qu'il y a, et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir un vaccin contre un certain nombre de tumeurs. On sait que elles varient beaucoup dans le temps et dans le type de tumeur. Mais on est capable de fabriquer un vaccin en quelques semaines. Et donc, de l'adapter au profil de la tumeur et de le proposer aux patients. C'est assez extraordinaire.
On a retrouvé Baptiste. Bonsoir Baptiste.
Oui, bonsoir.
Pareil, vous étiez en voiture.
Oui, je me suis arrêté pour l'occasion.
Allez-y.
Oui, en fait, c'était plus pour faire passer un message. En fait, moi, je suis pharmacien d'officine à côté de Lyon. Et en fait, depuis bientôt un an, les gens peuvent venir à partir de 11 ans, pas les enfants, mais à partir de 11 ans, les gens peuvent venir à la pharmacie pour se faire vacciner. Ouais. Et ce rendez-vous, et même sans prescription médicale, si on a fait les formations adéquates, on peut prescrire tous les vaccins du calendrier vaccinal. Et c'est vrai que quand on en parle aux gens au comptoir, à la pharmacie, peu sont au courant. Et du coup, je profitais des audiences de France Inter pour faire passer le message, qui me semble important que les gens soient au courant que ça existe, pour pouvoir améliorer notamment la couverture vaccinale, comme de la rougeole, comme on parlait juste avant.
Vous avez bien raison, Baptiste, merci pour votre appel. Isabelle Parent du Châtelet, bien sûr qu'il faut le rappeler.
Oui, oui.
Il y a un chemin simple pour aller effectivement jusqu'à un vaccin.
Alors, il y a un chemin simple, effectivement, et l'extension des compétences vaccinales aux pharmaciens, aux infirmiers, aux sages-femmes, fait vraiment partie des outils et des leviers qui ont un impact important. Je rappellerai quand même que dans les études qui sont faites à la fois de couverture vaccinale ou sur l'adhésion aux vaccinations, il y a quand même des disparités qui sont liées aux inégalités qu'on appelle sociales et territoriales de santé, qui sont liées à l'accès, aux différences d'accès aux soins, qui sont liées aux revenus, au niveau d'éducation. Et donc, il y a quand même aussi un travail aussi important à faire pour aller vers les populations peut-être un petit peu plus précaires et qui ont moins cet accès facile, comme vous le dites. Et donc ça, c'est une démarche qu'on a à Santé publique France, c'est de développer ces outils avec des professionnels de santé de terrain pour capter aussi ces populations plus précaires qui, on l'a vu pendant la Covid, étaient très vulnérables pendant cette période ceux qui avaient plus de complications à aller se faire vacciner.
On se souvient qu'il y avait eu un moment une idée de se demander s'il ne fallait pas vacciner d'abord justement les populations précaires et en priorité d'aller les chercher pour ensuite le reste. Lola sur WhatsApp nous dit ceci, plusieurs de nos proches ont attrapé la coqueluche récemment alors qu'ils ont été vaccinés dans l'enfance. Il y aurait apparemment une recrudescence en ce moment. À quel point les vaccins faits il y a très longtemps sont-ils encore efficaces ?
Alors effectivement, on a une recrudescence de la coqueluche. Bon, savoir, la coqueluche, elle survient par cycle épidémique, hein, et le dernier datait de 2017-2018, donc on s'attendait quand même à une nouvelle épidémie, et ça avait été très calme pendant la Covid, liée aux mesures sanitaires mises en place pour la pandémie. Effectivement, les vaccins dont on dispose actuellement sont des vaccins acellulaires, donc qui effectivement sont un peu moins efficaces, et surtout, ils sont très efficaces, mais la protection qu'ils induisent dure moins longtemps que des vaccins qu'on utilisait il y a plusieurs années, qui étaient des vaccins coqueluchés à germentier, mais qui avaient l'inconvénient d'entraîner des effets indésirables plus sévères. Donc, effectivement, on a vu des cas groupés de coqueluches dans des collectivités d'enfants, écoles maternelles, des enfants 5-6 ans qui n'ont peut-être pas encore fait leur rappel et dont la dernière vaccination remonte à 12 mois, hein, la date de leur rappel. Donc ça, c'est expliqué par cette baisse de protection dans le temps des vaccins coqueluches. Mais pour la coqueluche, c'est les nourrissons, hein, qu'on veut vraiment protégés. C'est eux qui font qui risquent de mourir, même quand ils font la coqueluche tôt. Donc c'est pour ça qu'il y a un arsenal il y a la vaccination de ces nourrissons dès qu'ils sont tout petits, hein, à partir de 4 mois. Et puis la vaccination des mamans, des femmes enceintes.
Absolument.
En fait, et qui vise à les protéger, à protéger leur bébé dès la naissance, pour les protéger sur les premiers mois de vie contre la coqueluche.
Philippe Parmel nous dissocie: la vaccination contre le zona est recommandée par l'assurance maladie pour les personnes de plus de 65 ans. Les différentes pharmacies consultées m'ont dit qu'il y avait une rupture de vaccin depuis à peu près un an et demi.
Alors, c'est un nouveau vaccin.
D'accord.
C'est un nouveau vaccin qui s'appelle Shingrix, qui est plus efficace que l'ancien vaccin qui a été recommandé donc récemment pour les plus de 65 ans. Il est en cours. Donc, il a été recommandé très récemment par la Haute Autorité de Santé à partir de 65 ans. Il y a deux injections à faire. Il est je crois, en cours de remboursement, enfin de discussion pour le remboursement, et ça devrait pas tarder.
Ben voilà, comme ça vous avez votre réponse. Philippe, merci beaucoup. Isabelle, par mail, pareil, question simple, réponse simple, est-ce que vous pouvez évoquer les bienfaits de la vaccination contre le pneumocoque, nous dit-elle.
Alors, chez l'enfant, une baisse des infections invasives. Et ce qui est assez extraordinaire avec ce vaccin, c'est qu'en protégeant les enfants, il a protégé les personnes âgées. Notre souhait aujourd'hui, c'est que les personnes âgées... en fait, c'est aux deux âges de la,
deux extrémités
de la vie qu'on est sensible. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes âgées, elles, ne sont pas assez protégées. Et là, on va essayer de simplifier cette vaccination pour les personnes de plus de 65 ans.
Ben voilà, la simplification est à la mode. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie toutes les deux beaucoup. Merci à tous pour vos nombreux appels, comme d'habitude.